Obéir, c'est même grandir, se conformer à la doctrine de l'Évangile où il est recommandé « Renoncez-vous ». Imitez l'exemple de celui qui voulut, Fils de Dieu, être obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. On peut, me semble-t-il, sans être le moins du monde infidèle à l'enseignement de saint Ignace, ajouter une autre pensée à ce résumé que j'ai tenté de faire. Si nous devons obéir ainsi au supérieur et pour l'amour de Dieu, quand il n'est qu'un homme et peut-être médiocrement doué de ce que nous appelons la supériorité humaine, quelle obéissance prompte, joyeuse, enthousiaste, ne devons-nous pas à l'Église en tout ce qui est du ressort de l'Église? La grande militante assistée de Dieu, inspirée par Jésus-Christ, qui a promis d'être avec elle jusqu'à la consommation des siècles. La sainte, la dispensatrice des grâces. La miséricordieuse, qui pardonne au nom du ciel. L'intransigeante, qui souffre tout plutôt que de sacrifier une parcelle de la vérité révélée. La prudente, dont on sent si bien qu'elle a le temps. L'artiste, riche du trésor des plus belles intelligences humaines depuis plus de 1900 ans, celle qui n'a rien à apprendre au sujet de la méchanceté des hommes, l'ayant tout éprouvé, et qui cherche infatigablement ces êtres d'erreur et de passion à cause de leurs âmes dont elle a charge et qui sont immortelles. Celle dont nos pères ont donné le titre le plus magnifique à un village de Normandie, qu'ils ont appelé Sainte Mère Église. Voilà celle qui a le premier droit à notre obéissance. Mais ce n'est pas tout. Comme on ne peut considérer, en bonne foi, l'Église et la connaître véritablement sans l'aimer, l'obéissance envers elle prend vite un caractère d'amour. Les chrétiens acquièrent ce sens de l'Église qu'Ignace de Loyola eut merveilleusement. Sens majeur, par quoi notre esprit est affiné jusqu'à deviner mille choses qui le dépassent, et notre cœur élargi jusqu'à éprouver pour les âmes quelque chose de l'universelle tendresse de l'Église. Sens de la communion des saints, fraternité illimitée dans l'espace et dans le temps. Sens de la vérité qui fait que le plus simple chrétien, et le moins lettré, se réjouit dans l'unité qu'il peut pressentir le péril d'une proposition douteuse et, fils du long conseil, s'élever comme de soi-même à la perfection de la délicatesse morale. Sens de la route qui mène au paradis. L'esprit d'obéissance est donc l'esprit essentiel de la compagnie de Jésus. Service immense rendu à l'Église et au monde. En formant avec un soin particulier ses religieux à cette discipline et par eux les fidèles, en créant une nouvelle école d'obéissance et de respect, Ignace de Loyola magnifiait et fortifiait, autant qu'il était en lui, la grande vertu menacée. Il prescrivait même à ses fils d'ajouter, comme je l'ai dit, aux vœux de pauvreté, d'obéissance et de chasteté, communs aux différents ordres, le vœu de parfaite soumission au souverain pontife. Le chef de la barque, le grand guetteur et timonier, n'a qu'à commander. Il a cette troupe d'élite, docile et toujours prête. Pour le bien du vaisseau et des passagers, ils feront ce qu'il ordonnera. Ceux qui étaient dans les haubans, parmi les voiles, descendront, s'il est utile, au fond de la cale et ne se plaindront pas. Bien plus, il ne se préoccupera pas de leur donner ce que le monde appelle imprudemment une récompense. Saint Ignace avait réclamé pour eux ce privilège qu'ils ne fussent point nommés à des dignités ecclésiastiques, à moins que le pape ne les leur imposât sous peine de péché. Et les choses sont restées telles. Lorsque je songe à la fin, que je n'ai pas raconté de la vie d'Ignace de Loyola, plusieurs pensées ou images se lèvent dans mon esprit. C'est d'abord que saint Ignace fut, selon l'expression d'aujourd'hui, un grand intellectuel. Ce capitaine qui savait tout simplement lire et écrire, à peine converti, aperçoit une autre guerre à laquelle il n'avait pas pris part, celle des élites du bien et du mal. Et il comprend, il voit le pauvre peuple, raffermi ou perdu, selon celle qui triomphe. Ce ne sont pas seulement ses habitudes, ses mœurs, ses préoccupations qui sont transformées. Il se remet à l'école et cherche à acquérir tout le savoir de son temps. Pour les hommes qui le suivront et le continueront, il voudra aussi la plus haute culture. Les lettres, les sciences, un souci constant de la distinction des manières et du langage, ajouteront une grâce humaine à la sainteté des religieux. Avec la protection du pape, il fonde le collège romain. À Rome encore, il fonde le collège germanique, car ses plus vives alarmes lui viennent de l'état de l'Allemagne, si profondément atteinte par l'hérésie. Et il estime que le mal de ces contrées a principalement sa source dans l'ignorance et les désordres du clergé. La sollicitude du monde entier est entrée dans cette âme et continuera d'émouvoir et de faire agir son ordre. Je songe à cette petite troupe de disciples qui sortait de Paris en novembre 1536, vêtus pauvrement, chargés de livres et de manuscrits, méditant ou disant le rosaire en marchant, afin de rejoindre Ignace à Venise. Et au mot que dit, les voyant ainsi passer, un laboureur de la Brie, « Ils vont à réformer coque pays. » L'homme ne se trompait pas. Ils allaient réformer, relever, rétablir dans la santé de la foi catholique et romaine ceux que la prétendue réforme avait troublés. Je songe à leur voyage, ensuite de Venise à Rome, et à ces phrases de Riba Denera. Ils cheminaient par groupe de trois, un prêtre et deux laïcs, ayant soin de mêler toujours ensemble espagnol, français ou savoisien. Ils allaient à pied, jeûnant, car on était en carême, et ne mangeant que ce que la charité leur donnait. Il arriva qu'un dimanche, où ils n'avaient pris dans la matinée que quelques bouchées de pain, ils firent pieds nus 28 milles d'Italie, qui valent bien 9 lieues d'Espagne, sous une pluie continuelle. La gêne ni la longueur des étapes ne feront céder ces hommes, voués au service de l'Église, qui vont au Père commun pour recevoir sa bénédiction et une nouvelle feuille de route. Je songe que nous sommes liés, Espagnols et Français, par les voyages et les séjours que firent ces saintes gens dans nos patries, et par l'amitié qu'ils eurent pour les deux pays. Je songe que la canonisation de saint Ignace fut demandée par les deux cours d'Espagne et de France, par Philippe II et Philippe III, par Henri IV et par Louis XIII.